Enfin, un évangile facile? Rien n'est moins sûr, tant cette parabole bien connue, parabole dite des dix vierges, laisse surgir de questions déconcertantes. Et d'ailleurs, ce texte ne nous situe-t-il pas d'emblée dans l'obscurité de la nuit? La nuit, si fréquente dans nos lectures bibliques, on pense à ce psaume 63, lu ce matin, au livre de Job, à la nuit de Gethsémané. D'ores et déjà, notre expérience singulière nous dit que cette nuit peut être riche de significations contradictoires, qu'elle peut être bienveillante ou au contraire angoissante, qu'elle peut être lieu de ténèbres, de solitude extrême, ou source d'un sentiment de majesté silencieuse propice à l'inspiration. Le silence, la disparition des limites trop rigides du visible peuvent alors nous conduire à la méditation et nous faire cheminer vers l'intériorité. Cette nuit peut aussi nous faire penser à notre temps présent avec toutes les incertitudes angoissantes qui le peuplent. Nuit d'un temps qui met à l'épreuve le courage éthique de l'homme, sa croyance au progrès, ses rêves de coexistence pacifique, son espérance évangélique. Nous sommes dans la nuit et nous essayons de nous diriger. Et voici que cette parabole, mode d'enseignement populaire privilégié par Jésus, peut constituer une lampe. Il importe de la scruter ce matin, car elle peut donner à voir, rendre visible ce royaume dont on ne sait s'il fait référence à un avenir ou s'il est déjà dans notre présent. 10 jeunes filles sont donc en attente de l'époux et sortent à sa rencontre. 10. Ce chiffre renvoie à l'idée de totalité. C'est l'ensemble de l'humanité qui est là, présente, dans cet espace nocturne. C'est à ces 10 jeunes filles immatures que nous sommes tous assimilés. Ces vierges sont réparties en deux groupes bien distincts, 5 folles et 5 sages, ou, dit autrement, 5 insensés et 5 avisés. Cette dernière traduction fait écho à la parabole des deux maisons au chapitre 7 de Matthieu, où s'oppose l'homme avisé qui construit sa maison sur le roc et l'homme insensé qui la construit sur le sable. À première vue, le partage est clair et on peut s'attendre à une narration pleine de certitudes morales simples, semblable à ce que nous racontent les terribles tympans de la cathédrale de Bourges ou de l'abbaye de Conques. Devons-nous nous préparer à un jugement dernier, distinguant sans équivoque le bien et le mal? Apparemment oui, puisque les unes ont pris soin de charger d'huile leurs lampes et sont donc prêtes à rencontrer l'époux, alors que les autres ont été imprévoyantes et n'ont plus de lumière. Il importe pourtant de s'interroger sur ces qualificatifs transmis par le narrateur. Le mot « folle » est-il entièrement négatif? Il laisse entendre que ces jeunes filles ont leur part de mystère, voire d'extravagance. Or l'apôtre Paul ne parle-t-il pas dans l'Épître aux Corinthiens de la folie de Dieu? Et les sages ou les avisés sont-elles des modèles incontestables de vertu? N'est-on pas tenté de les trouver bien peu partageuses et même mesquines, car enfin une lampe pourrait être utile à deux personnes? Un autre détail du texte attire l'attention. Tandis que les sages ont envoyé les lampes, les insensés, chez le marchand, marchands de dérivatifs, marchands d'espérance, pour recharger leurs lampes, l'époux arrive. Et le texte nous dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Les prêtes sont-elles forcément les sages? Ce n'est pas sûr. La formulation est floue. On ne parvient pas vraiment à se dire qu'à la fin de la parabole, les avisées auraient gagné le royaume. Peut-être certaines des jeunes filles folles sont-elles maintenant déjà prêtes? Peut-être ont-elles été accueillies finalement précisément parce qu'elles ont fait la démarche de recharger leurs lampes en espérance vivante. Et du même coup, on est amené à s'interroger sur ce que peut signifier être prêt à la rencontre avec l'époux. Car à ce stade, il paraît difficile de s'en tenir aux réponses toutes faites à ce qu'on appelle familièrement le niaka. Ne sont convaincantes ni les jeunes filles avisées qui disent aux imprévoyantes « Vous n'aviez qu'à recharger vos lampes en temps utile. » Ni les jeunes filles folles qui disent « Il n'y a qu'à emprunter de l'huile à celles qui en ont. » Cependant, il y a bien dans cette histoire une affaire d'exclusion qu'il est difficile d'esquiver. Le texte fait entendre cette exclusion. La porte du festin se ferme bel et bien à un moment donné. Et l'époux dit à celles qui n'étaient pas prêtes à temps et qui frappent pour implorer la réouverture de la porte, « Je ne vous connais pas. » Le salut est-il promis à tous? Difficile de le dire au regard de cette parabole. La grâce n'offre pas la possibilité de penser et d'agir comme si nos actes n'avaient aucune importance. Une responsabilité nous incombe. Alors, comment peut-on être prêt? Ou si l'on veut tenter une traduction de cette question en d'autres termes, comment vivre dans l'absence ou malgré elle? Comment vivre dans une attente si longue qu'elle risque de ruiner notre capacité d'espérance, de nous laisser gagner par le fatalisme ou de nous amener à abandonner notre poste de veille, en somme, de nous faire perdre notre foi. Perdre la foi, la foi peut-elle mourir, s'éteindre comme le lumignon? Oui, elle le peut, comme une ferveur peut s'exténuer, s'anémier si elle n'est pas nourrie. Cependant, il importe de ne pas s'en tenir à cette formule toute faite, de la tirer au clair, de l'expliciter avec exigence, car la foi n'est pas comme un porte-monnaie, comme un bien périssable, une sorte de batterie que l'on posséderait ou non et qu'il serait possible d'aller recharger chez le marchand de la parabole. D'ailleurs, cette parabole, dans son ambiguïté, n'est pas là pour délivrer un message de condamnation de ceux qui penseraient avoir perdu la foi. Elle exhorte plutôt à se regarder comme vivant, inspiré par la volonté d'aimer Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce à dire? Allons jusqu'au bout de la lecture de ce chapitre 25. On y entend un début de réponse décisive à cette question. Jésus y évoque l'accueil de l'étranger, le vêtement donné à celui qui est nu, la visite aux malades et aux prisonniers, en somme tous ces actes par lesquels l'intérêt du prochain est pris en considération amicale. Et Jésus dit, « Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Face à l'enfermement du fatalisme, l'infini s'ouvre alors dans la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, et qui est l'image du Christ. Cependant, la phrase finale de la parabole des dix vierges ne nous dit pas explicitement « Rechargez votre lampe », mais plus simplement « Veiller. Veiller, c'est-à-dire être attentif, être là, avec ou sans lampe, mais dans la préoccupation essentielle de la rencontre avec cette histoire et avec l'époux qui œuvre dans ce texte, avec les questions qu'il pose sur le royaume. Souvenons-nous du début de la parabole. Le royaume est semblable à 10 jeunes filles, etc. Le royaume n'est pas la salle du festin avec le groupe limité de ceux qui ont été élus. Il est cette scène sur laquelle nous sommes appelés à méditer avec les 10 jeunes filles, avec la salle et la porte et ce qui est dehors. Il est cet ensemble auprès duquel nous sommes appelés à veiller. On ne peut traduire ce mot veiller par un concept. Pour le garder dans nos mémoires, écoutons à nouveau ce verset du psaume du jour, le psaume 63. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Amen.